Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, crise migratoire, crise politique. À 160 voix pour et 18 contre, le Parlement hongrois a voté avant-hier une loi qui pénalise l'aide aux migrants. Toute personne portant assistance à une autre entrée illégalement dans le pays encourt désormais une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison. Et dans le même élan, les parlementaires hongrois ont modifié leur constitution. Elle stipule désormais qu'aucune instance ne peut porter atteinte à la composition de la population. Une façon de rendre inconstitutionnelle toute imposition de quotas de migrants par l'Union européenne. Mais cela dit, l'Union européenne en est-elle encore à envisager ce genre de solution? Les divisions et les tensions sont tellement fortes aujourd'hui sur cette question migratoire qu'on ne voit pas très bien ce qui pourrait être décidé en commun. Il y aura bien un mini-sommet dimanche sur le sujet avant le sommet de Bruxelles en fin de semaine prochaine. Mais comme l'a reconnu Angela Merkel aujourd'hui, nous savons qu'il n'y aura pas de solution au niveau des 28 États membres pour un paquet d'ensemble sur les questions migratoires. La crise provoquée par ce dossier est d'autant plus inquiétante qu'elle ne menace pas seulement les institutions européennes et le projet qui les porte, elle fragilise aussi chacun des États membres confrontés à des surenchères politiques internes. Et le phénomène ne se limite d'ailleurs pas à la seule Europe, puisqu'il suffit de voir ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Alors crise migratoire, crise politique, c'est le sujet de ce soir en compagnie de deux des membres de notre club. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées chaque samedi à 12h45 sur France Culture et le site AOC Analyse Opinion Critique. Et puis notre invité cette semaine, c'est Mathieu Tardis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. IFRI, Institut Français des Relations Internationales. Vos axes de recherche portent notamment sur les migrations internationales et leurs impacts sur les politiques européennes. Alors l'Europe, justement, va commencer par là. En fin d'émission la semaine dernière, qu'on avait consacré au basculement, ou pas d'ailleurs, du monde et de la diplomatie vers l'Est, en fin d'émission la semaine dernière. La journaliste du Figaro, Isabelle Lasserre, nous disait ceci à propos de l'Europe. La crise des migrants est de nature à la faire exploser. Est-ce que c'est une perspective que vous partageriez, Anastasia Colosimo?
Oui, c'est évident. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre chapeau, cher Hervé. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Il y a l'unité de l'Europe. Et le fait qu'il n'y a pas de solution qui a été trouvée pour l'instant, sachant que la crise des migrants commence, disons, dans les années 2010, bat son plein en 2015, on est en 2018, et il n'y a toujours pas eu de solution trouvée. Donc il y a une question sur l'unité de l'Europe et sur l'unité aussi de ses valeurs, parce qu'on voit que les différents camps se fracturent, ce qui amène au second problème, celui que vous avez évoqué, qui est que il y a de très fortes tendances parmi les États membres de nouveaux partis qui se disent ouvertement contre l'immigration et qui sont souvent aussi des partis eurosceptiques. Et donc, quelque part, le fait de révérer l'Europe s'accompagne aussi d'une volonté de ne pas accueillir les migrants. Et donc, cette double entrée un peu de la montée des populismes, c'est un peu toujours raccourci de parler de populisme, mais quand même, cette double entrée de la montée des populismes montre bien un certain échec de l'Europe dont on ne voit pas. Et d'ailleurs, Merkel le dit elle-même, vous l'avez très bien rappelé, comment on pourrait en sortir?
On pourrait dire d'ailleurs, Sylvain Bourmeau, que la crise migratoire aujourd'hui, c'est d'abord une crise de l'Europe.
Ce serait déjà réduire la question. Je pense qu'on va avoir l'occasion de le voir dans l'émission. Elle se pose à différentes échelles, mais peut-être que la manière dont elle se pose le plus directement, c'est à une échelle globale, en fait, même si évidemment les conséquences sont très territoriales, géographiquement limitées. Je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la crise. D'ailleurs, est-ce une crise? On pourrait se poser la question de la migration. Il n'y a que 5% des gens sur la planète qui ont migré un jour, quelles que soient les migrations. On ne peut pas dire que ce soit un phénomène d'ampleur. La plupart des migrations, elles ont lieu à l'intérieur des pays, elles ont lieu ensuite à l'intérieur des continents. Vous savez par exemple que la partie du monde qui migre le moins, c'est l'Afrique subsaharienne. C'est pas ce qu'on pourrait penser à entendre ce qui se dit dans les médias. Donc il faut faire attention à un certain nombre d'idées reçues. Mais moi, je voudrais, par rapport à cette introduction, dire ma gêne quand on tente d'exposer la question en faisant contraster d'un côté des pays comme la Hongrie et la politique qu'elle met en œuvre aujourd'hui, qui vient stigmatiser ceux qui aident les migrants, Et puis des pays dans lesquels on rangerait évidemment la France, qui aurait une autre politique d'accueil à l'égard des migrants. Est-ce qu'on est sûr que ce soit si différent que ça ? Je vous rappelle quand même que l'appel lancé par les cinéastes en 1997 à propos des sans-papiers concernait le soutien à une certaine Jacqueline Deltombe qui était inquiétée par la justice française pour avoir aidé des migrants.
Voilà ce qu'on appelle le délit de solidarité.
Ce délit de solidarité, il est dans l'actualité en permanence. Il l'était encore récemment dans la vallée de la Roya. Il y a eu un certain nombre de gens d'inquiétés. Donc, mais au nom de quoi vient-on faire la leçon aux Hongrois ? Je ne dis pas ça pour défendre la politique qu'on mène en Hongrie, mais plutôt pour faire un peu honte à celle qu'on mène en France. Je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence de ce point de vue-là. De la même façon, qui ne respecte pas les règles du jeu européen ? Je vous rappelle que la France s'était engagée à accueillir 30 000 migrants. Il y a quelques mois, on n'en était même pas à 5 000 et l'Union européenne a réprimandé la France qui n'a pas été capable de tenir ses engagements. Je vous rappelle aussi que la France, et là on est dans les rêves les plus fous peut-être de Marine Le Pen, a déjà fait le Frexit s'agissant de Schengen. Et même pas en plus avec le courage de le lier à la crise migratoire, mais en prétextant la COP21 ou les mesures antiterroristes pour arrêter les frontières libres à l'intérieur de l'Europe pendant 2 ans, alors que le traité ne prévoit de pouvoir le faire que 6 mois normalement. Donc les règles européennes, on ne les respecte pas en France. Peut-être faut-il aussi parler de ça et pas seulement de la Hongrie comme d'un épouvantail.
Alors justement, ça sera une des questions hein, que je vais aborder très vite avec vous et Mathieu Tardis et Anastasia Colosimo. C'est-à-dire, est-ce que cette crise migratoire, elle révèle des fractures qui seraient des fractures territoriales ? C'est vrai qu'en tout cas, jusqu'à récemment, on a eu l'habitude d'opposer ce que serait cette Europe de l'Est, ces derniers entrants au sein de l'Union européenne par rapport aux pays historiques qui étaient censés peut-être être davantage porteurs des valeurs de l'Union européenne. On voit effectivement qu'à travers les politiques nationales qui sont menées, c'est un petit peu plus flou. Mais avant cela, je voudrais quand même vous interroger, Mathieu Tardis, par rapport à ce qu'a dit Sylvain Bourmeau au début de son intervention. Est-ce que c'est vraiment une crise migratoire ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de crise migratoire aujourd'hui en Europe ?
Non, il n'y a pas de crise migratoire en Europe. Il y en a peut-être au niveau mondial. Sur certains points, il y a une question très spécifique dans le monde sur la question des réfugiés qui va concerner quelques territoires comme le Moyen-Orient ou l'Afrique de l'Est. Mais en Europe, il n'y a pas de crise migratoire. Il n'y en a jamais eu, y compris en 2015, même s'il y a eu un impact assez important en Grèce d'une arrivée assez importante, principalement de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans. Mais aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de crise migratoire. L'Europe...
Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait d'ailleurs parler de crise migratoire ? Ça serait quoi ? Ça serait le nombre ? Ça serait l'incapacité des États à gérer l'arrivée de migrants ?
La capacité des États à gérer l'arrivée de migrants, de réfugiés, elle existe, mais elle est due à cette incapacité des États qui n'ont jamais finalement respecté ces règles du jeu européen, parce que ça fait 20 ans que l'Union européenne et que les États membres se sont engagés à harmoniser les conditions d'exercice du droit d'asile. C'est depuis 1999 que l'Europe s'est engagée à ça. Y a des textes qui ont été adoptés qui n'ont jamais réellement été appliqués, y compris par la France, y compris par l'Allemagne sur un certain point, et bien sûr par les pays d'Europe centrale. La Grèce est aussi un exemple assez significatif. Donc, ces arrivées de migrants en Europe, déjà par la mer, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis le début des années 2000 qu'on connaît ce phénomène, bien sûr à une ampleur plus ou moins importante. Et finalement, l'Europe a toujours été protégée par rapport au reste du monde. Et puis on a surtout eu, à partir de 2011, ce conflit en Syrie. Aujourd'hui, il y a plus de 6,5 millions de Syriens qui sont réfugiés, auxquels il faut ajouter 7 millions de Syriens déplacés au sein de la Syrie. Et c'est à notre porte. Ce phénomène qu'on a connu en 2015 était prévisible. Les Européens n'ont jamais voulu le voir.
Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est qu'au moment où la crise semble particulièrement forte, on est plutôt, semble-t-il, dans une phase où ce phénomène migratoire est plutôt en phase descendante. C'est ce que dit par exemple la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une crise politique en Europe au sujet de la migration, alors que le nombre de migrants a baissé drastiquement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage ? Ça veut dire que la perception persiste beaucoup plus longtemps que la réalité des faits, Mathieu Tardis ?
En fait, je pense que ça fait 40 ans que les responsables politiques disent qu'il y a un problème avec l'immigration dans nos pays. Je simplifie en Europe de l'Ouest. On pourra parler ensuite de l'Europe centrale. Mais ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y a trop d'immigration, que l'immigration est un problème. Donc, à force de dire ça, je pense que les populations y ont cru. Même si je ne veux pas nier l'impact de l'immigration sur des sociétés, il y en a un, c'est évident. Et je pense que la France est aussi un exemple d'un pays d'immigration depuis des siècles. Mais il y a un discours politique pour éviter de parler d'autres problèmes, et des problèmes peut-être plus sociaux et d'égalité. On vient de nous dire que l'immigration est la cause de ces problèmes. Donc même quand ces migrations ou ces flux d'arrivées par la mer, parce que c'est aussi ça qui est très spécifique aux années 2000, enfin au 21e siècle, baissent. On a tellement fait croire aux gens que l'immigration a été un problème, qui continuent à avoir cette perception-là, y compris, je dirais même particulièrement dans un pays comme la France, où l'immigration d'aujourd'hui est finalement jugée par rapport au supposé échec de l'intégration de l'immigration d'hier. Et ça, c'est très français. On voit la différence entre les Allemands et les Français sur ce propos-là. Et on juge encore une fois l'immigration d'aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans le passé.
Sur la responsabilité du politique et du discours politique, Anastasia Colosimo, par rapport à la perception de ce qu'est la réalité du phénomène migratoire qui n'est pas tout à fait une crise, nous dit Mathieu Tardis. Bah,
déjà, je suis un peu embêtée par le fait de dire que ce n'est pas une crise. Si on considère la crise d'un point de vue phénoménologique, c'est une crise, puisque tout le monde en parle, puisque les gens pensent que c'est problématique, puisque d'autres pensent que ça ne l'est pas, puisqu'il y a eu, Alain Courdier en 2015, vous vous en souvenez très bien, des images extrêmement choquantes, puisqu'il y a, il y a quand même des personnes qui meurent en Méditerranée parce qu'elles essayent de rejoindre l'Europe. Il y a l'Aquarius, donc des situations qui sont quand même très complexes, et on voit aussi qu'il effrite une solidarité qu'on pourrait penser, en tout cas constitutive de l'Europe. Donc ce qui est certain, c'est que je ne sais pas à quel moment, enfin si ça n'est pas une crise, je ne sais pas vraiment ce qui est une crise.
Oui, mais c'est peut-être le fait de parler de crise migratoire, ce qui laisse entendre qu'il y aurait un afflux absolument massif de migrants, ce qui n'est peut-être
mais
pas
c'est
le cas.
Pas...
Il y a des crises politiques, bien sûr, mais c'est plutôt l'effet... je sais pas ce qu'on pense.
Faites le parallèle en 2015. L'été 2015 a été un été particulier pour l'Union européenne. On commence l'été 2015 avec la crise grecque, avec le référendum grec. Donc avec cette crise-là, on la termine avec la crise qu'on appelait des réfugiés à l'époque. En tout cas, en Allemagne, on appelle ça la crise des réfugiés. En France, on l'appelle la crise migratoire. Il y a déjà une question de termes qui se pose. Donc, il y a un parallèle entre ces deux situations de crise. C'est-à-dire un sentiment de panique. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une panique européenne qui n'est pas liée à un afflux important de personnes qui viennent d'ailleurs. Et vous l'avez rappelé, ces flux-là ont tendance à baisser du fait de l'action, hein, finalement, des États, de l'Italie ou de l'Union européenne. C'est un résultat très concret d'une action qui a été menée par l'Union européenne. Là, on est dans des crises politiques. Si vous prenez l'exemple de la Hongrie, est un très bon exemple. Quand Viktor Orban décrète l'état d'urgence migratoire l'année dernière en Hongrie, alors qu'il y a 3000 personnes qui sont entrées dans le pays, on n'est pas dans une crise migratoire, on est dans une instrumentalisation d'un phénomène naturel qui a toujours existé et qui existera toujours à des fins politiques.
Alors, je pense que déjà, il y a des traditions d'accueil qui sont très différentes. J'entends ce que dit Sylvain Bormont quand il dit qu'on ne peut pas montrer du doigt les autres pays, etc. Mais je pense que historiquement, les pays de l'Est ont beaucoup moins une tradition d'accueil que la France, par exemple. On reste quand même le deuxième pays d'Europe en termes d'accueil, juste après l'Allemagne. On peut évidemment continuer à dire, et je suis la première à le dire, que rien n'est parfait, mais on ne peut pas non plus considérer qu'on a le même comportement que d'autres pays aujourd'hui en Europe. En tout cas, on essaye de trouver des solutions. Ça, je pense que c'est quand même important. Ensuite, sur les partis ou des élites qui utiliseraient la question de l'immigration pour endormir le peuple sur les questions sociales, je pense qu'il ne faut pas non plus faire preuve ni de trop de complotisme, ni de trop de paternalisme. C'est-à-dire que il y a une inquiétude vis-à-vis de l'immigration qui peut être réel, qui est souvent aussi fantasmée, mais il y a les deux qui se mélangent. Et je pense qu'il y a aussi eu un problème au niveau du fait que cette difficulté a été très souvent niée. La réalité aujourd'hui, c'est que, et pour le grand enjeu en fait de l'immigration, c'est l'accueil, mais c'est aussi ensuite l'intégration. Et on voit très bien aujourd'hui qu'en France, il y a des endroits, ça on le voit, qui sont débordés, des quartiers qui sont débordés et qui n'offrent pas en fait de perspective à ces migrants qui viennent, à ces réfugiés qui viennent. Et ça, ça crée de véritables problèmes que la population voit. Ensuite, qu'elle l'exprime de manière parfois irrationnelle ou un peu trop extrême, c'est une toute autre question. Mais ça veut dire aussi peut-être qu'à un moment, justement, les gouvernements n'ont pas su prendre cette question-là véritablement au sérieux.
Sylvain Bormeau.
Ce que vient de décrire Anastasia Cosimo, on pouvait le voir, l'entendre, le lire exactement de la même façon dans les années 30. Années 30 durant lesquelles, pendant le cartel des gauches, le gouvernement expulsait des Polonais qui arrivaient en France et pour lesquels la population française trouvait qu'ils avaient du mal à s'intégrer. Ils avaient leurs propres bonnes sœurs, leurs propres écoles, leurs propres pâtisseries, etc. Vous compreniez, ils étaient différents. Donc on nous refait le coup à chaque fois. Là maintenant, sous prétexte qu'il s'agirait, il s'agirait d'une religion différente, mais en fait, ce discours de la difficile intégration des étrangers, on l'a fait à propos de gens qui venaient d'autres pays, qui avaient une autre religion. C'est toujours la même histoire qui se rejoue. C'est pour ça que je suis complètement en accord avec l'idée qu'il faille, pour comprendre ce qui se passe, à la fois être rigoureux, ne pas parler de crise migratoire, mais bien effectivement parler de crise politique au sens où il y a un fossé entre la réalité d'un certain nombre de phénomènes démographiques, géopolitiques et la représentation qu'on en donne. J'ajouterai une chose sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure sur ce décalage, c'est ce que les chercheurs qui travaillent là-dessus, je pense aux travaux de Virginie Guiraudon en particulier, appellent le policy gap, l'écart entre la politique publique et le discours politique. Il est énorme. Ça fait des dizaines d'années maintenant que des responsables politiques roule des mécaniques en expliquant qu'ils vont maîtriser les flux migratoires. À commencer par Nicolas Sarkozy, qui a été président de la République longtemps, qui a été ministre de l'Intérieur en charge de la politique d'immigration. Ça fait quand même 9 ans au total de responsabilité sous Nicolas Sarkozy de ce dossier. Quand on regarde les résultats de ce qui s'est passé, en fait, il n'a rien maîtrisé du tout parce qu'il n'est pas plus à même, il n'était pas plus à même de maîtriser quoi que ce soit que ne l'a été son successeur et que ne l'avait été son prédécesseur. En fait, la marge de manœuvre des politiques publiques s'agissant de politique migratoire est extraordinairement faible. Pourquoi ? Parce que la France a signé un certain nombre de conventions et de traités internationaux eu égard à l'asile, au regroupement familial, que toutes ces choses sont inscrites dans le droit et que, sauf à renier ce qui a fait, et on rejoint le début du débat, le fondement même de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, on ne peut pas changer. D'ailleurs, pendant la dernière campagne présidentielle, personne ne s'avisait de remettre ça en cause. Sauf peut-être François Fillon qui expliquait qu'il fallait que la France sorte de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est allé jusqu'à dire ça.
Donc il suffirait d'expliquer les textes tels qu'ils existent pour qu'il n'y ait pas finalement de
crise.
C'est
pas ça, mais on est tenu par ces textes. Ou alors on renonce à ce qui fonde notre état de droit.
Mathieu Tardis.
C'est vrai, un gros policy gap. Et aussi, ça c'est...
Alors policy gap, hein, c'est un... Comment dire,
y a un écart entre le discours et la politique publique menée.
Entre la politique et aussi entre l'application de cette politique publique. Et il y a aussi, et ça c'est très particulier aussi, y compris dans un pays très centralisé comme la France, la politique ne va pas être appliquée de la même manière à Lille ou à Marseille, par les préfets, hein, puisque c'est quand même les préfectures qui sont en charge de ça. Mais ça, c'est peut-être un autre problème.
Est-ce que tout autant problématique, est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors ça serait peut-être pas un policy gap, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais un décalage entre le discours des experts dont vous faites partie, Mathieu Tardis, qui quand même de manière très majoritaire ont tendance un petit peu à essayer de désamorcer justement cette idée qu'il y aurait une crise migratoire, et la perception qu'on en a quand même. C'est-à-dire, moi, chaque fois que je fais des émissions sur le sujet et que j'invite des spécialistes, ils disent peu ou prou la même chose que vous, pour autant, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Alors, certes, le discours politique est sans doute plus présent et donc plus performant d'un point de vue médiatique, mais quand même, comment ça se fait que... Est-ce que ça ne se heurte pas aussi à une réalité que vivent les gens sur le terrain et que ces explications-là ne rencontrent pas non plus ce que peuvent vivre les gens ?
Je pense que des chercheurs comme moi, on essaie de rationaliser le débat aussi. Et je ne suis pas toujours persuadé que les décideurs politiques ont une meilleure vue de ce qui se passe sur le terrain et de comment les Français ou la population habitant en France vit ces questions-là. Il y a des inquiétudes, certainement. Encore une fois, il faut voir d'où viennent ces inquiétudes. Est-ce qu'elles viennent de la question migratoire ou ça vient d'inquiétudes sur un avenir dans le pays? Je pense que si ces politiques sont vues, et elles le sont, à mon sens, comme non efficaces, c'est parce que ce sont des politiques qui ne répondent pas aux questions très concrètes, très précises de terrain. Qui peut se poser pour l'arrivée, lors de l'arrivée de ces populations, y compris sur des questions qui sont peut-être un peu plus polémiques autour de la question du retour des étrangers en situation irrégulière. Il y a toujours la question des travailleurs sans papier qui se pose, dont on ne parle plus, mais elle existe encore, cette question. C'est que ces politiques-là ne sont pas, elles ne répondent pas à une situation de terrain, elles répondent aux opinions publiques. Il y a une grande rentabilité politique derrière la politique d'immigration ou l'immigration de manière générale. Et quand on voit les dernières élections depuis 2 ans dans l'Union européenne, donc il y a bien sûr la France où toute l'Europe et toute la France étaient assez inquiètes du résultat de l'élection. Il y a les Pays-Bas aussi où il y avait une grande inquiétude sur la victoire du parti populiste et d'extrême droite, les élections allemandes. C'est assez étonnant de voir que dans ces 3 élections, qui étaient les trois grosses élections nationales dans l'Union européenne en 2017, finalement la question migratoire était très présente, mais elle n'était pas présente dans les débats. Elle est venue après. En France, pendant la campagne présidentielle, on n'a pas parlé d'immigration.
Mais justement, Mathieu Tardis, est-ce que ce risque politique de voir des formations, par exemple, d'extrême droite gagner en audience ou de voir des formations peut-être politiques un petit peu plus traditionnelles, mais louchées du côté justement de l'extrême droite, est-ce que ça ne justifie pas qu'au niveau national, il y ait des mesures un peu plus restrictives en matière d'immigration qui soient prises pour éviter ça? Ou bien est-ce que c'est un faux argument pour vous?
L'Italie est un bon exemple. Regardez le gouvernement précédent. Donc un gouvernement centre-gauche qui a pris des mesures très dures en matière d'immigration, et c'est pour ça que l'immigration, les arrivées ont baissé en Italie depuis l'été 2017, et y compris en passant des accords avec les gardes-côtes libyens. Donc des mesures qui peuvent être contestables au regard du respect des droits humains. Quel impact ça a eu sur les élections? Le gouvernement précédent a perdu les élections. Donc je pense qu'il faut aussi que les responsables politiques qui essaient de répondre à une soi-disant demande de la population qui voudrait un curseur plus répressif se posent la question de leur propre succès derrière. Ça, on peut dire la même chose finalement avec François Hollande, où il y a eu une politique un peu plus équilibrée. Quel résultat ça a eu? Pas trop. Et même quand il y a eu des mesures très, très restrictives, ça n'a pas eu non plus un résultat positif. Donc il faut aussi qu'ils fassent attention à ça. Finalement, les gens vont d'abord préférer l'original à la copie, parce que c'est comme ça que ça va être perçu. Et plutôt que d'essayer d'appuyer sur ces peurs, ces inquiétudes, essayer de les rassurer et de trouver des solutions très pragmatiques, en mettant les citoyens et la société civile plus davantage au cœur des politiques publiques.
Anastasia Dacolosimo, est-ce qu'effectivement il n'y a pas un risque d'engrenage et de surenchère politique qui pourrait peut-être expliquer le parallèle que faisait tout à l'heure Sylvain Bourmeau avec les années 30?
Très flatteur.
Je pense pas. Enfin, je sais pas. Vous nous le direz après, Sylvain Bourmeau. Mais vous étiez en train de dire que Anastasia Dacolosimo était en train de ressusciter ce discours et de le prendre à son compte.
Enfin, je sais pas. Le discours dont je parlais. Le discours dont je parlais, qui soit très clair, c'était le discours tenu à l'époque par des représentants de la SFIO. Hein. Ce n'était pas le discours des ligues uniquement. C'était pour dire quelque chose du consensus assez large dans la société française des années 30. Encore une fois, ne nous trompons pas sur ce que j'ai dit.
Je pense que par ailleurs, c'est pas une folie de dire que l'immigration n'est jamais une question simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut fermer le pays, fermer les frontières, etc. Au contraire, ça veut dire qu'en ouvrant les frontières, on est aussi responsable de l'accueil qu'on offre et aussi des possibilités qu'on donne aux personnes qui viennent, c'est-à-dire accueillir des personnes pour qu'elles restent parquées, pour les parquer dans des cités, ou accueillir des personnes pour qu'elles se retrouvent dans la jungle de Calais, ça paraît pas non plus concevable comme politique, et c'est pas possible, et c'est pas souhaitable.
Là, ça relève d'une politique du logement. par exemple.
Non, mais bien sûr. Donc, ça relève donc
pas
de
la politique
extrêmement...
d'immigration.
En oui, fait, mais donc de choses très concrètes qui sont
qu'est-ce qu'on appelle
autour.
La politique d'immigration ? Est-ce que c'est cette politique de gestion de flux de personnes ?
Bah, c'est tout.
La politique du logement, elle s'applique sur un territoire pour toutes les catégories de la population.
Mais, donc les réponses à l'immigration, elle ne peut être que multiples.
Non, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences de l'immigration qui sont complexes dans une société, mais elles peuvent aussi, ces conséquences, être extraordinairement positives au plan économique, par exemple. Moi, je suis frappé par le contraste et le grand écart qu'il y a là encore entre, d'un côté, un discours politique qui aspire à davantage de croissance économique, et d'un autre côté, un discours politique qui voudrait fermer les frontières. Il y a peu encore, le différentiel de croissance entre la France et l'Allemagne ne s'expliquait que par la croissance démographique supérieure de l'Allemagne. Et on sait bien que la croissance démographique supérieure de l'Allemagne ne tenait pas au taux de natalité, mais bien à l'arrivée de gens à l'extérieur du pays. Donc, pour rebondir sur ce que vous demandiez, Hervé, tout à l'heure...
Est-ce que vous ne tombez pas aussi là dans l'excès inverse, qui serait de valoriser les conséquences extrêmement positives de l'immigration ? Est-ce qu'on n'est pas dans un discours totalement opposé, mais qui n'est pas...
Il ne s'agit pas d'être positif...
Et qui peut-être ne correspond pas tout à fait à la perception...
Mais il ne s'agit pas d'être positif ou négatif, et il s'agit en revanche, effectivement... d'essayer d'influer sur les perceptions quand elles sont à ce point en décalage par rapport à la réalité des faits aujourd'hui et par rapport à la manière dont on peut anticiper les faits demain. Parce que le gros avantage de la démographie comme discipline, c'est que c'est une chose qu'on peut projeter assez facilement dans l'avenir. Et on sait très bien que l'Europe, si elle ne veut pas... dépérir, aura besoin de se repeupler massivement, considérablement, dans les 10 années, dans les 20, 30, 40 années qui viennent. Or, ce choix vers lequel on va forcément, autant en prendre conscience le plus tôt possible, autant préparer les esprits de la population ou des populations des pays européens à cette ouverture des frontières qui ne manquera pas de se produire, plutôt que de le faire au dernier moment, dans la précipitation, sans avoir réfléchi aux manières d'accueillir en cela, je rejoins ce que disait Anastasia Colosimo à l'instant, tout ça se prépare sur le long terme. Or, on est en train aujourd'hui d'aller dans deux directions totalement opposées de ce point de vue-là, et on se prépare des lendemains qui vont déchanter, parce que le phénomène migratoire, c'est pas par des discours de fermeté qu'il va s'arrêter. C'est pas non plus en menant des politiques de développement dans les pays d'émigration qu'il va s'arrêter, puisqu'au contraire, il est même montré que le développement économique, qui ne manquera pas de se produire dans les pays du Sud, favorise l'émigration.
Dans un premier temps.
Alors, généralement, oui, enfin...
Oui, même... sauf que les échéances, elles sont électorales pour la plupart des décideurs aujourd'hui, donc les résultats, ils les veulent tout de suite. Et c'est là où la Commission européenne est d'ailleurs assez embêtée par rapport... à ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui. La Commission européenne, il faut reconnaître, depuis 15-20 ans, dit plus ou moins la même chose, qu'il faut organiser l'immigration, et, y compris pour les réfugiés, qui est encore une fois une question un peu plus spécifique. Les États membres disent toujours oui, ok, lors des conseils, mais derrière, rien ne se passe. Donc,
parce qu'il y a un manque de courage politique, tout simplement, pour expliquer cette nécessité
et
à moyen terme.
Aujourd'hui, on est
terme.
Sur une volonté d'avoir des résultats sur le court terme, qui n'est pas possible, et donc ces responsables politiques vont être encore plus décrédibilisés aux yeux de la population, et là on amène encore plus ces partis populistes avec des solutions qui ne sont pas des solutions et qui ne seront jamais appliquées non plus.
Il y a un manque de courage politique aujourd'hui sur ces questions, Anastasia Colosimo ?
Bah, ce qui est certain, c'est que par exemple l'Aquarius est un très bon exemple. Lorsque Emmanuel Macron accuse l'Italie d'avoir un comportement qui n'est pas un comportement solidaire et qui est un comportement qu'il juge...
C'est preuve de cynisme, il a dit, hein, le gouvernement
cynique,
italien.
Par ailleurs, il n'accueille pas l'Aquarius. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que ça va être sans doute très mal perçu par l'opinion publique, parce que la réalité, c'est que cette question de l'immigration, c'est le lieu de toutes les tensions de l'opinion publique. Alors moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit Mathieu Tardy, ce qui me paraît extrêmement juste, qui est que je ne suis pas convaincue de la stratégie des partis qui essayent d'emprunter un peu le discours populiste pour essayer de juguler justement ces populismes. On voit par exemple ce qu'est en train de faire la CSU en Allemagne, justement contre l'AFD, en se disant qu'en ayant un discours plus dur sur l'immigration...
Je crois que c'est juste. Alors la CSU, c'est la partie bavaroise, on va dire, de la CDU, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, mais qui est, on va dire... C'est très, très à droite, hein, le ministre de l'Intérieur notamment est issu de ce parti. Voilà, il est dans un bras de fer actuellement avec Angela Merkel en disant en gros, si vous ne faites rien, nous on ferme les frontières. Voilà. Et puis l'AFD, c'est le parti Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite. Voilà.
Oui, je pense que Mathieu Tardy disait quelque chose de très vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une préférence pour l'original que pour la copie. Et donc il n'est pas du tout certain que ces stratégies de récupération un peu hein, de ce discours-là politique, tout d'un coup d'affichage d'une certaine fermeté, servent réellement ces partis. Parce que la réalité, c'est qu'à mon avis, les causes sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire que tous ces débats-là se sont joués il y a beaucoup plus longtemps. Et même le fait de faire apparaître l'immigration comme quelque chose de purement positif ou de purement négatif, à mon avis, le vice a toujours été un peu là. C'est-à-dire de ne pas en faire appel à une solidarité dont on sait que ça va être une question difficile. Dire oui, l'immigration, c'est difficile, mais on doit ça au regard de ce qu'on est, au regard de l'histoire, au regard de ces personnes qu'on va par ailleurs intégrer. Et là où je pense que ce qui est très important et même essentiel, c'est de faire participer la société civile. On voit, et c'est pour ça que j'ai du mal, moi, à accuser la France. Alors, il y a la question gouvernementale, mais dans la société civile, on voit qu'il y a énormément quand même d'associations qui s'appliquent, que partout, hein, à tous les niveaux, et même parmi les plus jeunes, hein, dans les écoles, dans les universités, il y a beaucoup d'accueil qui est fait, de cours de français qui sont dispensés. Et donc, ce qui est important, c'est de... Premièrement, en faire une politique globale, c'est-à-dire d'agir sur tous les leviers, la politique du logement, enfin un tas de choses, et puis surtout de sensibiliser la société civile, mais justement sans essayer sans cesse soit de dire que c'est absolument terrible, soit de dire que c'est absolument formidable, de justement retrouver une mesure dans le discours qu'on a sur l'immigration, aussi en disant évidemment qu'il y a des difficultés, évidemment qu'il n'y a rien d'évident à ça, mais c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui affronter en se donnant la possibilité de l'affronter.
Mathieu Tardis, l'Europe n'est pas la seule zone géographique à être confrontée à cette crise politique sur base de débats autour de l'immigration. Il y a évidemment les États-Unis avec les mesures qui ont été prises dernièrement par Donald Trump, la séparation des enfants de leurs parents des illégaux, avec ce décret maintenant qui leur permet d'être détenus ensemble, ce qui est considéré comme un progrès. Bon, ça, évidemment, ça reste à discuter. En tout cas, est-ce qu'on est dans le même registre et que ce que connaît aujourd'hui le débat politique européen ? C'est-à-dire, est-ce que là aussi, il y a un problème entre la perception de ce que représente véritablement l'immigration et le discours et l'utilisation politique qui en est faite ?
Oui, à mon sens, on est dans la même configuration. La différence assez importante, que les États-Unis se sont toujours assumés comme un pays d'immigration, ce qui n'est pas le cas de la France, même si la France est un pays d'immigration et construit aussi avec l'immigration et sur l'immigration. Et alors les États-Unis ont toujours assumé ce rôle pour des raisons qui sont assez évidentes. Donc c'est là où le tournant est assez fondamental aux États-Unis, peut-être un peu plus que chez nous, où on a déjà connu aussi ce type de résurgence contre les étrangers. Là où les Américains, et je pense aussi qu'une partie de l'Europe, et c'est là où je mettrais vraiment la différence entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, c'est sur le rôle de la société civile. Et je pense que la société civile américaine est extrêmement active, et je pense que s'il y a vraiment une différence entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et pas forcément sur l'approche de l'immigration, finalement, là on parle de pays, puis on parle de ceux qui prennent les décisions pour les pays. Donc c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, et encore pas tous les pays, parce que les Britanniques n'ont pas voulu participer au mécanisme de relocalisation des demandeurs d'asile en 2015, cette répartition des migrants, comme on le dit rapidement. Le Danemark non plus ne l'a pas fait, donc ils ont cette possibilité selon les traités, mais ils n'ont pas voulu. Mais les Britanniques, par exemple, c'est intéressant parce que le gouvernement britannique n'a pas voulu le faire. La question migratoire au Royaume-Uni est aussi, peut-être encore plus qu'ici, une question sensible. Mais la société civile a forcé le gouvernement à mettre en place des mécanismes qu'on appelle de réinstallation de réfugiés syriens. Et c'est là où, en Europe centrale, je pense qu'on n'a pas la même histoire, bien sûr, la société civile est beaucoup moins forte que dans l'ouest du continent. Et là, on voit la différence. Et donc, la société civile n'est pas en position de pouvoir influencer les décisions politiques. Et pour revenir à votre introduction autour de cette loi qui a été adoptée en Hongrie, on voit vraiment que ce type de régime, c'est justement les associations qui sont visées, parce que c'est là où il y a encore un tout petit peu de contestation en Hongrie.
Sylvain Bourmeau.
Oui, la vraie différence, elle est du côté de la société civile et aussi du côté de l'histoire, parce qu'il n'y a aucune espèce d'histoire d'immigration dans ces pays ou très peu. Alors, si on prend
Il y a une histoire, excusez-moi, il faut aussi revoir l'Europe centrale comme un lieu où il y avait une extrême diversité.
Interne.
Oui, mais c'est finalement... Et c'est aussi une manière d'envisager l'autre, ce qu'on considère être comme l'autre, dans le même territoire.
Alors, certes, mais enfin, c'est pas
tout à fait... Et il y a toujours la question des Roms, qui est une
c'est
question
pas tout à fait
qui
la même
très,
chose.
Très
même pour un Allemand de l'Est et pour un Allemand de l'Ouest, la frontière reste encore extraordinairement présente. C'est d'autant plus remarquable la position d'Angela Merkel, d'ailleurs, s'agissant de quelqu'un qui a grandi à l'Est, aujourd'hui, très atypique de ce point de vue. Je partage votre analyse aussi, qui consiste à remarquer qu'en France, par exemple, il y a encore une société civile assez mobilisée, même si elle n'a peut-être pas le même impact qu'en Grande-Bretagne, enfin, au Royaume-Uni. Elle est assez forte. À une nuance près, il me semble que ce qui a pu s'affaiblir ces derniers temps, c'est du côté de l'administration et de la haute administration française. Dans les années 1970, lorsqu'on a pour la première fois expulsé massivement des étrangers, c'était des Algériens, c'était déjà un président de centre-droit, c'était Valéry Giscard d'Estaing, 35 000 Algériens avaient été expulsés à l'époque. Des hauts fonctionnaires se sont mobilisés. On est là à la création du GISTI qui se fait au croisement entre des professeurs de droit, des énarques, des juristes hauts fonctionnaires très engagés. Il y a cette tradition dans la haute fonction publique française par rapport à la question des étrangers qui est très forte. Et ça s'est un peu effrité pour le moins. C'est du moins ce que remarquent les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, qui ne rencontrent plus tout à fait les mêmes interlocuteurs s'agissant des préfets ou de ceux qui mènent ces politiques migratoires à l'intérieur des ministères.
Mmh. Un dernier mot, Mathieu Tardis, même si ça mériterait une émission à part entière. Vous avez signé, il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de mars, une note pour l'IFRI, les partenariats entre l'Union européenne et les pays africains sur les migrations, un enjeu commun des intérêts contradictoires pour les pays de départ, enfin certains des pays de départ, tous les migrants ne viennent pas d'Afrique, enfin un certain nombre en viennent. Pour ces pays-là, quelles sont les répercussions de la crise politique en Europe ? Sur ces pays-là, est-ce que ça crée aussi des crises politiques dans les pays de départ ?
Ça crée des tensions parce que déjà on exporte notre manière de traiter les questions migratoires, c'est-à-dire de l'immigration est un problème, alors que dans beaucoup de ces pays, la migration est une solution. Et les migrations, elles se font avant tout dans l'espace régional, notamment au Sahel. Il y a les personnes bougent beaucoup, migrent beaucoup, mais en migration circulaire, ils partent et ils reviennent. Et ça, on est en train, nous, de le remettre en cause parce qu'on sécurise beaucoup la question migratoire, et particulièrement au Sahel. Ça devient une question de plus en plus militaire. En tout cas de forces de l'ordre, mais de plus en plus militaires. Donc on soutient, on finance les forces de l'ordre de ces pays. Le Niger est un cas très intéressant.
Oui, voilà, on a un petit appel, là, mais on va continuer. Je vous en prie.
Donc on sécurise cette question et on est en train de déstabiliser encore plus ces pays qui n'ont pas forcément besoin d'être déstabilisés. Et donc je pense que ça va aussi nous revenir un jour comme un boomerang. Donc c'est en ça où notre exportation, je ne parle pas encore d'externalisation, peut-être que la semaine prochaine on pourra parler d'externalisation de nos politiques, mais on n'en est pas encore là. Mais cette exportation de notre vision de l'immigration pour nos intérêts, finalement, à nous, les Européens, sont en train de déstabiliser les pays d'origine et surtout de transit.
Voilà, la semaine prochaine, c'est parce qu'il y a donc ce sommet européen, jeudi et vendredi prochain, à Bruxelles, qui sera en grande partie sans doute, consacré à cette question migratoire, même si, comme je le disais au tout début, la chancelière allemande a prévenu, il n'y aura pas de solution qui sera trouvée à l'issue de ce sommet. Merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Tardis, Anastasia Colosimo et Sylvain Bourmeau, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque jour et comme à chaque fois sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Virginie Leduo, Antoine Tricot et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Régis Nicolas, Pierrick Charles et Jean-Benoît Tétu. Arnaud Laporte, la dispute, c'est dans 3 minutes.
3 minutes 20, si tout va bien. Si on est à l'heure, Hervé Gardette. On parlera de cinéma à 19h03 ce soir. Et quand même demain, dans Politique, à midi, on vous retrouve.
Pour parler des collaborateurs parlementaires, les couteaux suisses de la République. C'est le titre que nous avons choisi. Tiens, on peut peut-être demander à Sylvain Bourmeaux de quoi, quel sera le sujet de la suite dans les idées.
Bah, tout de même.
Il sera question de littérature et d'anthropologie. Ce sera avec Jean Jamin, l'anthropologue.
Bon, d'autres programmes à annoncer ?
Oui, je sais pas, le programme du week-end d'Anastasia Colosimo,
non, peut-être
elle
pas,
est déjà
alors.
Sur son téléphone. Oh. Allez, c'est à vous.
On va plutôt donner l'antenne à Mathieu Laurent pour les titres de l'actualité. Il est 19h, vous écoutez France Culture.